Chapitre 61. 4 octobre 1998, 8h14. Crédule grand-duc s'effondra, face contre terre. Une flaque de sang coulait de son dos, comme une petite source d'eau cramoisie. Malvina apparut, serrant le Moser L-110 entre ses deux mains tendues devant elle. Sa voix fluette troua le silence.
« Va pas croire que j'ai tiré pour te sauver la vie, Vitral. C'est juste que je ne supporte pas qu'on dise que Lise Rose est morte. »
Elle laissa tomber le Moser par terre à ses pieds. Tout son corps tremblait. Ce n'était plus du bluff cette fois. Elle avait tiré. Elle avait tué. « Tu... comment ?» Malvina s'exprima nerveusement.
« Je ne suis pas plus conne que toi. J'ai pensé au journal, moi aussi. Le type du parc, Grégory Morez, m'a conduite en 4x4 jusqu'au siège de l'Est républicain. Tu m'avais mâché le travail. Le journal du 23 décembre 1980 n'était pas encore rangé. Tu avais même écrit l'adresse de Mélanie Belvoir sur la première page. J'ai sauté dans un taxi avec l'adresse. Je lui ai demandé qu'il me laisse juste en dessous, à la sortie de Danemarie. »
Marc hésita. Quelle attitude adopter? Remercier Malvina, la prendre dans ses bras? Ne rien faire, la laisser ainsi? Il s'approcha. Malvina se raidit.
« Me touche pas !»
Elle s'effondra sur la terre comme un pantin désarticulé. Elle sanglotait. Marc ne comprenait que des bribes de mots irréels.
« Mamie, papy, envolée, hier, partie, partie !»
Il se détourna et ouvrit la portière de la Xantia. Grand-Duc n'avait pas menti. Une enveloppe blanche était posée sur le siège. Marc la déchira. Elle contenait 4 pages dactylographiées. Marc marcha jusqu'à Malvina. Elle continuait de pleurer, prostrée, recroquevillée dans sa position fœtale. Il s'assit à côté d'elle. Il lut doucement, à voix haute. « Je vais tout vous dire, monsieur Grand-Duc. Après tout, je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'ai rien à me reprocher.
Il est temps pour moi de parler, puisque vous m'avez retrouvé. Il fallait bien que je le fasse un jour. » Admettons que c'est le moment. J'étais une adolescente difficile, comme on dit. Dès 17 ans, je n'avais plus beaucoup de relations avec mes parents. J'avais déserté l'école depuis longtemps. Je zonnais, comme tant d'autres. Mes parents sont parvenus à me traîner à la NPE. J'ai erré de stage en stage, jusqu'à ce boulot d'insertion, quelques semaines, au service environnement du parc naturel du Haut-Jura. En fait d'insertion, le travail consistait surtout à ramasser les ordures dans la forêt, classique. J'étais sous les ordres, avec une petite troupe d'autres stagiaires, de Grégory Morez, l'ingénieur du parc pour le Mont Terrible. Il était incroyablement beau. Il était très tendre avec les jeunes filles qu'il trouvait à son goût. Il possédait une sorte de don pour les toucher, les frôler sans paraître insistant. Il avait plus de 10 ans de plus que moi. Comme tant d'autres, je suis tombée amoureuse de lui. On a fait une première fois l'amour en pleine nature, dans un sous-bois, près d'un petit torrent, au milieu de cette forêt qu'il connaissait si bien. Puis des tas de fois ensuite, tous les jours pendant le stage, et encore plusieurs semaines après. Partout, dans les lieux les plus incroyables. Moi, j'avais conscience qu'il avait d'autres aventures, mais je croyais qu'il était différent avec moi, enfin, vraiment amoureux. Je voulais croire à ses promesses. Classique, non, monsieur Grand-Duc? Ah, la jeune gourde et le beau parleur.
Et ensuite?
Je suis tombée enceinte. Je m'en suis rendue compte tard, au bout de 6 semaines. J'avais déjà entamé ma descente en enfer. Pas de travail, une famille que j'évitais de plus en plus, des amis de moins en moins fréquentables, une obsession suicidaire, ce Grégory Morez. Son corps... le plaisir qu'il me donnait...
C'était Grégory, le père?
Oui, il était mon seul et unique amant. Je lui ai annoncé un soir dans la chambre d'un hôtel minable, dans la banlieue de Belfort, après que nous avions fait l'amour.
Quelle a été sa réaction?
Oh, du classique, monsieur Grand-Duc. Rien que du classique. Il m'a foutu à la porte, m'a dit que je n'étais qu'une petite pute qui cherchait à le piéger, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il soit le père et que je n'avais qu'à me faire avorter.
Vous ne l'avez pas fait pourtant?
Non, je n'ai pas non plus vraiment pris la décision de garder l'enfant. J'ai simplement laissé passer les semaines, sans réagir. La 7e, la 8e, tout est arrivé très vite. Grégory m'obsédait toujours, j'étais comme folle. J'étais persuadée que je parviendrais à le faire changer d'avis, à le récupérer. J'étais au fond du trou aussi. Je n'avais déjà plus de domicile fixe. Je squattais, je rentrais chez mes parents au moins d'une fois par semaine. Quand ma grossesse est devenue trop visible, je ne suis plus rentrée du tout. Je me contentais de téléphoner.
Vous avez accouché à l'hôpital ?
Oui, à Montbéliard, au service pathologique. J'étais tout juste majeure. Je n'étais pas dans un très bel état. Le bébé n'était pas bien gros, un peu plus de 2 kilos. Il est né le 27 août 1980, une petite fille. Je suis ressortie de l'hôpital une semaine plus tard, avec les papiers de l'état civil que je n'avais pas remplis et que j'ai jetés dans une poubelle.
C'est aussi simple que ça ?
Vous savez, monsieur Grand-Duc, en une semaine d'hôpital, j'ai dû croiser plusieurs dizaines d'infirmières différentes et presque autant de médecins. Il doit bien y avoir encore à l'hôpital la trace, dans un dossier, de la naissance de mon enfant, la preuve qu'il existe. Mais qui va aller vérifier que cet enfant est toujours avec moi, que je l'élève ? Aucun membre de ma famille n'a jamais rien su de cet enfant.
Comment l'aviez-vous appelée, cette petite fille ?
Elle n'a jamais porté de prénom. C'est étrange, n'est-ce pas ? J'avais dit à l'hôpital que je n'avais pas encore choisi, que j'attendais le père. Je suis sortie avec mon enfant. Ma chute fut vertigineuse. En quelques semaines, j'ai coupé tous les liens que j'avais encore avec mes amis d'enfance, ma famille. C'était l'été. Je dormais dans la rue avec mon enfant pendu à mon sein toute la journée. J'étais épuisée. Je fréquentais une faune qui ne me jugeait pas. Des poivrots, des camés. Je n'arrivais plus à prendre aucune décision. Rentrer chez moi, pleurer, tomber dans les bras de mes parents. Ils travaillaient tous les deux à Alstom, dans la chaîne d'assemblage des TGV, à Belfort. Retourner voir Grégory avec l'enfant et le convaincre. Ma petite fille avait déjà d'incroyables yeux bleus. Les miens, un peu, mais surtout les yeux de son père. De magnifiques yeux clairs de chien-loup. Me laisser mourir là, sur le trottoir.
Comment avez-vous pris la décision de partir ?
Je n'avais pas le choix. Une gamine dans les rues de Montbéliard, avec un bébé, ça finit par se repérer. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à avoir les services sociaux aux fesses. J'avais beau être majeure, je comprenais comment cela se terminerait. Les services placeraient l'enfant et me ramèneraient chez moi, à Belfort, sans me demander mon avis. Je dois vous avouer, monsieur Grand-Duc, que je n'avais pas fait alors que des choses légales. J'ai dealé, j'ai volé, j'ai vendu mon corps aussi, plusieurs fois. Vous comprenez, je pense, pour survivre, il fallait que je quitte Montbéliard.
C'est là que vous avez rencontré Georges Pelletier.
Ouais, un pauvre type, un paumé comme moi, qui avait besoin de se mettre au vert. Les flics, les services sociaux, sa famille aussi, tout le monde au cul, comme moi. Il m'avait à la bonne, et il me trouvait mignonne malgré tout. Je crois qu'il se voyait déjà devenir mon macro, staré. Je ne l'ai jamais laissé me toucher. Mais voilà, on avait comme des intérêts communs. Foutre le camp ensemble. Le Jura, le Mont Terrible, ça m'est apparu comme une évidence. C'était tout près de Montbéliard et personne ne viendrait nous chercher là-bas. C'était la première semaine de décembre. Il faisait encore assez doux. On était habitués à dormir dehors. Et surtout, j'allais pouvoir retrouver Grégory, le croiser. Il me reconnaîtrait l'enfant, ses yeux. Il ne pourrait pas nier qu'il était le père. Je sais que cela peut sembler dingue, hein, monsieur Grand-Duc, mais je l'étais. Grégory Morez était ma seule bouée. J'y croyais encore.
Vous l'avez croisé, finalement ?
On s'était installé dans une cabane qu'on avait trouvée, près du sommet du Mont Terrible. Il ne faisait pas chaud, mais on allumait du feu, on avait un toit. On était presque mieux que dans la rue, finalement. Je vous réponds, monsieur Grand-Duc. J'y viens. Oui, j'ai croisé Grégory Morez, presque tous les jours. Le Mont Terrible n'est pas bien haut, la forêt pas bien grande. Je l'ai croisé, je portais mon enfant dans les bras. Il ne m'a pas reconnu, monsieur Grand-Duc. Il n'a même pas jeté un regard sur moi. En quelques mois, j'étais passée du stade de fille jeune, plutôt excitante, à celui de déchet. J'avais grossi, mes seins n'étaient plus que des morceaux de chair flasque qui pendaient, mes yeux n'avaient plus aucun éclat. J'étais méconnaissable.
Vous ne lui avez pas parlé non plus ?
Vous ne comprenez pas, monsieur Grand-Duc. J'étais humiliée, tellement humiliée, et il ne m'avait même pas reconnue. Étais-je devenue si laide ? Avait-il connu d'autres femmes depuis ? J'avais compris, monsieur Grand-Duc, que plus jamais il ne me toucherait, que plus jamais il ne voudrait de moi. Comment imaginer alors qu'il puisse vouloir de mon enfant ? Mon dernier espoir s'était éteint sur les pentes du Mont Terrible. Je n'avais plus rien. Mon enfant était comme un boulet, une excroissance de moi-même. Et nous coulions ensemble. N'allez pas croire que je ne l'aimais pas, cet enfant, monsieur Grand-Duc, que tout instinct maternel était mort. Oh, que non! Bien au contraire! Mais je n'avais plus rien à lui offrir à mon enfant. Pas de père, même plus de lait. Pas même un prénom. Vous vous rendez compte? La neige s'est mise alors à tomber brusquement sur la montagne. C'était le matin du 22 décembre. On s'était réchauffé comme on avait pu autour d'un feu, dans la cabane, toute la journée. Je devais m'occuper de tout. Pelletier était sous cocaïne les trois quarts du temps. Il se serait laissé geler sur place si je n'avais pas été là. J'étais obligée de le foutre dehors pour qu'il aille ramasser du bois.
Et la nuit est venue.
Oui. La tempête. Elle redoublait de violence. Pelletier était défoncé. Je crois qu'il n'a même pas entendu le choc. La cabane en a vibré, comme un tremblement de terre, comme si c'était la fin du monde. De la cabane, on voyait les arbres brûler à 1 kilomètre, brûler sous la neige. J'étais fascinée. J'ai enveloppé mon enfant dans une couverture et je suis sortie. Il ne faisait pas froid. Au contraire, à cause de l'immense brasier, une chaleur qui vous piquait la peau.
Vous n'avez pas eu peur?
Non, à aucun moment. C'était une scène étrange, irréelle. La neige et le feu. Et puis cet avion posé au milieu de la montagne, tordu, dont l'acier fondait devant moi dans les flammes comme du vulgaire caoutchouc. Je savais que j'étais le premier témoin de la catastrophe, mais je ne pensais pas que les secours seraient si longs à venir.
C'est alors que vous l'avez vu?
Le bébé? C'est ce que vous voulez dire, monsieur Grand-Duc? Oui, c'est à ce moment-là.
Il était...
Oui, il était déjà mort. Tuméfié. Mort sous le choc. Depuis de longues minutes déjà. Aucun bébé n'aurait pu survivre seul, là-haut, dans l'enfer. Je ne sais pas comment tout le monde a pu croire à cette fable. Le bébé était mort, monsieur Grand-Duc. Et j'ai tout de suite pensé que c'était injuste.
Comment ça?
Cruel, si vous préférez. Toute une famille allait pleurer, ce bébé mort. C'était une petite fille. Elle portait une robe. Entrée en deuil. Une vie foutue. Et moi, j'étais incapable d'offrir un avenir à ma propre fille. Elle vivrait sans personne, sans famille, rien que moi. Et je comptais si peu. Vous comprenez ce que je veux dire par cruel, par injuste?
Je comprends.
Oui, c'est pas bien difficile. Le nourrisson mort dans la neige avait quasiment le même âge que ma fille. J'ai agi sans réfléchir. Comment vous expliquer? J'avais pour la première fois l'impression d'être utile, vraiment, d'effectuer une sorte d'acte de bravoure, de sauver une vie. Voilà ce que je pensais. Sauver une vie, sauver une famille, sauver ma petite fille aussi. Un peu ce que doivent ressentir les médecins, les pompiers. C'est ce sentiment qui m'a tant surprise cette nuit-là, qui m'a donné envie de devenir infirmière ou quelque chose comme ça, après tout ça. Sauver des vies.
Vous avez déshabillé le cadavre de ce bébé mort dans la neige.
Pour le sauver, monsieur Grand-Duc. Pour le sauver. Je vous l'ai dit, n'avez-vous pas compris? J'offrais mon enfant sans avenir à une famille aimante, sans doute riche, qui jamais ne connaîtrait mon sacrifice, qui pleurerait de joie devant le miracle, ne se doutant jamais de rien. Il y avait presque quelque chose de sacré.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, pas du tout.
Comment aurais-je pu deviner, monsieur Grand-Duc? Comment aurais-je pu deviner qu'il y avait 2 nouveau-nés dans l'avion, morts tous les 2, comme tous les autres passagers? Comment aurais-je pu imaginer les conséquences? J'avais cru agir enceinte ce soir-là, monsieur Grand-Duc. Oui, enceinte. J'ai suivi ensuite, dans les journaux, toute cette affaire. Les 2 familles qui se déchiraient, le jugement. Que pouvais-je dire? Que pouvais-je faire, à part me taire? Tout aurait dû être beaucoup plus simple. J'ai attendu près 1 heure, jusqu'à ce que les secours arrivent, tenant mon bébé dans les bras, vêtu de ses nouveaux habits. Lorsque j'ai entendu au loin les premiers pompiers approcher, les torches, les cris, j'ai déposé mon enfant dans la neige, juste assez loin de l'avion pour qu'il soit réchauffé par les flammes, sans être brûlé. Je l'ai embrassé une dernière fois. Dans quelques heures, on lui donnerait une nouvelle famille. Je me suis enfuie dans la nuit chaude avec le petit corps nu du bébé mort dans le crash, enveloppé dans ma couverture.
C'est vous qui l'avez enterré à côté de la cabane?
Que pouvais-je faire d'autre? Avez-vous une autre idée? Pelletier dormait encore, toujours sous coke. J'ai gratté le sol comme une folle, avec mes mains, dans la neige. J'étais trempée. J'avais les mains en sang. J'ai creusé longtemps. Pelletier est arrivé derrière moi alors que j'avais presque terminé. Le cadavre du bébé reposait déjà dans la tombe. J'inventais des prières avant de le recouvrir de terre. Je n'en connaissais aucune. Pelletier était comme un fou. Il croyait que c'était ma petite fille, que je l'avais tuée.
Il a compris lorsqu'il a vu la gourmette au poignet de l'enfant.
Oui, dans mon affolement, à aucun moment je n'ai fait attention à ce petit bijou. Une gourmette gravée. Lise rose. Pelletier, lui, l'a repérée au premier regard, qu'elle était en or aussi. Le deal était simple. Je lui laissais le bijou et il fermait sa gueule. Il a arraché la gourmette du poignet de l'enfant. Il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Moi, je suis restée encore un peu. J'ai poussé la terre mouillée de neige dans la tombe. À tâtons, j'attrapais des pierres, des cailloux. Je les empilais. Mes doigts gelés ne parvenaient presque plus à se plier. J'ai mis une éternité à fabriquer une croix avec deux morceaux de bois. J'ai dormi le reste de la nuit dans la cabane, près des cendres. Enfin, non, je crois que je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni les nuits d'après.
Vous êtes retourné près de la tombe les années suivantes ?
Oui, cela vous l'avez compris. Petit à petit, la vie a repris le dessus. Mes parents me recherchaient, faisaient passer ces fameux avis de recherche dans les journaux. Je suis retournée à Belfort, finalement. J'ai repris mes études. Je suis devenue infirmière, comme je vous l'ai dit. Et j'ai rencontré Laurent, il y a 6 ans. Laurent Luisant. Il est brancardier à l'hôpital. Mes parents étaient âgés. Mon père est mort, il y a 5 ans. Et ma mère, l'année dernière. Avec Laurent, nous ne sommes pas mariés, mais j'ai tenu tout de même à utiliser son nom. Laurent ne sait rien de mon passé. Personne n'est au courant, d'ailleurs. Laurent voudrait un enfant. Il n'est pas trop tard pour moi, je n'ai que 36 ans. Je ne sais pas, c'est compliqué pour moi, vous comprenez ?
Je comprends, Mélanie. Vous ne m'avez pas répondu pour la tombe.
J'y viens, monsieur Grand-Duc. Oui, j'y suis retournée tous les ans. Chaque 27 août, l'anniversaire de la naissance de mon enfant. C'est comme si c'était mon propre enfant que j'avais enterré sur le Mont Terrible, monsieur Grand-Duc. Vous comprenez ? Mon propre enfant, pas un étranger, pas cette Lise rose. Je revenais entretenir la tombe, fleurir la croix. Une année, il y a une éternité, c'était en 1987, je me suis rendu compte que quelqu'un avait fouillé les pierres, les avait déplacées. Qui ? Je savais que l'affaire vitrale Carville n'était pas close, qu'elle ne le serait jamais d'ailleurs, qu'elle ne pouvait pas l'être.
À moins que quelqu'un n'exhume le cadavre de nourrisson enterré dans une couverture à côté de la cabane. Un détective tenace, par exemple.
Par exemple ? J'ai pris peur. Qu'en exhumant ce cadavre, on exhume mon passé. J'ai vidé la tombe, nettoyé la dernière preuve.
Vous avez creusé une autre tombe ailleurs, plus discrète ?
Cela ne vous regarde pas, monsieur Grand-Duc. Cela ne regarde que moi. Qu'allez-vous faire maintenant ?
Je l'ignore. Peut-on se rencontrer ?
Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Je suis à votre merci, comme on dit. Le plus tôt sera le mieux. Laurent commence demain matin, à 5 heures. Moi, je fais la nuit. Pas simple, vous voyez la vie des hospitaliers. Je termine à 8 heures à Montbéliard. Le temps de rentrer, disons 9 heures chez moi, demain matin. Vous avez su me retrouver après toutes ces années. Je suppose que vous saurez trouver la route. J'espère que vous serez discret, monsieur Grand-Duc. J'ai changé de vie. J'ai réussi, cela n'a pas été simple, d'oublier. Je n'ai rien voulu faire de mal, ce soir-là, sur le Mont Terrible. Bien au contraire, je ne pouvais pas prévoir.
Prévoir quoi ? Prévoir quoi, Mélanie ?
Prévoir que ma fille me ressemblerait autant lorsqu'elle aurait 18 ans.
Ma fille me ressemblerait autant lorsqu'elle aurait 18 ans. Il était un peu plus de 9 heures. Le léger brouillard collé aux pentes du Jura commençait à se dissiper en voile, s'élevant vers les sommets. Marc repéra le premier la petite voiture blanche, quelques lacets plus bas, bien avant d'Anne-Marie, une Fiat Panda. Elle s'approcha doucement, passa devant eux, puis se gara quelques mètres plus haut, juste devant le chalet au volet bleu ciel. Marc remarqua le caducée d'infirmière collé sur le pare-brise arrière. La conductrice, dont il ne distinguait que la chevelure blonde, demeura immobile devant le volant de longs instants. Enfin, les feux de la voiture s'éteignirent. La portière s'ouvrit sur le sourire fatigué d'un étrange visage familier. «